4 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, ça discute chiffon et tendance de la mode avec notre partenaire, le magazine Brune. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes les voisines. J'espère qu'elles seront nombreuses aujourd'hui.
Et merci d'être avec nous en direct alors que vous sortez de l'avion et que vous arrivez du continent africain. Rédactrice en chef donc du magazine Brune. Encore un carton et un bravo pour la couverture du dernier numéro. Sublime beauté noire drapée de rouge. Lèvres de feu, lunettes de soleil, qui est donc cette déesse masquée.
Alors cette déesse masquée, elle a déjà fait la cover de Brune, c'est une jeune Camerounaise qui s'appelle Janzi, et elle a été photographiée par le talentueux Alain Gann, qui est du Cameroun aussi, donc l'Afrique a des talents, et on essaye de les mettre de plus en plus en avant, et on est vraiment ravis de travailler avec eux, oui. Alain et puis Janzi, qui est vraiment...
Et bravo à eux, shooté au Cameroun.
Shooté
dans
au
un studio camerounais.
Voilà, tout à fait.
Karima Peroni, également avec nous, journaliste à Gazelle Magazine. Bonjour Karima. Bonjour. On va faire une émission sur les retardataires un jour. Bon, personne n'a rien vu. Elle est dans les studios, c'est l'essentiel. Œil de lynx, à qui rien n'échappe. Medina Koné, journaliste à FDF Magazine. Bonjour Medina.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver. FDF Magazine, magazine féminin multiculturel. Nous évoquerons avec vous les filles le phénomène Black Panther ou comment un film inspire la mode. Nous parlerons aussi de la beauté noire, un marché à conquérir pour les fabricants de cosmétiques, un reportage aussi sur ces très jeunes iraniennes qui se font refaire le nez et un débat crucial en ces temps de réchauffement climatique. La mode raccourcit-elle dangereusement? La semaine dernière, vous vous souvenez, mesdames, la mini-canicule d'avril, oui, on est toujours en avril, cette mini-canicule qui a affolé les trottoirs après des mois de pluie, de froid, de pantalons ternes, de chaussettes malodorantes, de bottes, bref, un temps de... comme on en avait rarement vu. Eh bien, c'est une bourrasque, que dis-je, un tsunami qui a soufflé sur les terrasses des cafés. On a vu de tout. Des filles en nuisette à 10h du matin, des poum-poum shorts à minuit, des robes de patineuse dans le métro, des mini-jupes à la salle de jeu, des voilages double langage. Personne n'en parlait, mais tout le monde regardait, filles et garçons, le changement climatique à l'œuvre. Alors les voisins et les voisines, où se situent les frontières géopolitiques du court, trop court, scandaleusement court? On attend vos témoignages sur la liberté vestimentaire. S'habiller court, jusqu'où et pourquoi? Appelez-nous dès maintenant ou laissez vos messages vocaux sur notre WhatsApp. C'est le même téléphone que le standard, c'est une prouesse technique chez nous. 33 1 84 22 71 71. On est aussi sur Facebook et sur Twitter.
My baby don't care for clothes. My baby don't care for shows. My baby just cares for me. My baby don't care for cars or races. My baby don't care for high-tone places.
Jamais démodé, My Baby Don't Care, reprise de Nina Simone par Kiko Bun. Alors la mode du cours, ça chauffe sur WhatsApp et les réseaux sociaux. Il y a les pragmatiques concernant les mini-jupes, comme Charles au Burundi.
Pour moi, le port de mini-jupes, je dirais que je n'encourage pas. Parce que c'est très difficile de s'asseoir dans les bus, de monter dans les voitures, vous voyez vous aussi. Il y a des activités très difficiles à réaliser quand tu mets des mini-jupes. Pour moi, il faudra quand même mettre au moins les pantalons. Les pantalons, c'est plus beau que les mini-jupes.
Oui, bah ça c'est sûr, on ne va pas cultiver son champ en mini-jupes. Hein. Une voisine, Sita aussi.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. S'habiller court au-dessus du genou ou se couvrir, bah, j'ai envie de dire chacun son choix. À mon avis, ce qu'il faut promouvoir, ce sont les valeurs. Merci, bonne journée.
Bon, les valeurs, quelles valeurs?
That is a question.
Non, mais c'est vrai que le même choix se porte entre se vêtir court ou long. Finalement, c'est la liberté de la femme qui prime.
Un point de vue, celui d'Ousmane en Côte d'Ivoire.
Moi, c'est Ousmane
en Côte d'Ivoire. J'aime voir les mini-jupes dans la rue, mais je n'aime pas quand mes sœurs en portent.
Ah bah voilà, j'aime les mini-jupes dans la rue.
Il a tout dit.
Afi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous dit que les gens pensent que bien s'habiller est synonyme de porter une jupe ou robe courte, un décolleté. Pour moi, l'habit montre la dignité de la personne, sa personnalité. Les universités sont devenues des lieux de rencontres et même d'exhibitions. Même s'habiller peut être dangereux. Un autre voisin poste le message suivant. La mode du court est à l'origine de viols. Une femme qui porte une mini-jupe excite les hommes. La femme doit avoir une tenue décente. Eh bien, voici la réponse d'un voisin, Yves Abeni, en RDC. Son message a été posté sur WhatsApp.
Dans mon pays, les gens pensent que les personnes en mini-jupe s'exposent à des violences sexuelles. Mais moi, je suis dans une région insécurisée à l'est, avec des groupes armés extérieurs et nationaux. Et les personnes, les femmes qui sont violées, qui sont victimes de violences sexuelles, elles ne sont pas en mini-jupe malheureusement, ce sont des vieilles femmes, ce sont des filles ou bien des femmes avec des pagnes ou bien des longues jupes, mais malheureusement elles sont victimes des violences sexuelles, des groupes armés, voire même des gens dans le village. C'est une question d'éducation, mais aussi c'est une question de déontologie, c'est une question aussi de sécurité, de politique, parce que chez nous, dans mon pays, la violence sexuelle est utilisée malheureusement comme arme de guerre. Et ça ne regarde pas que ce soit les mini-jupes ou quoi. J'ai constaté qu'il y a plus de violences sexuelles sur les femmes, les filles, même les vieilles femmes, à l'intérieur, dans des territoires là où les femmes ne savent pas les mini-jupes, là où elles ne sont pas même bien habillées, qu'en ville. En ville, à Kinshasa, il y a des filles qui sont en mini-jupes, mais dont les violences sexuelles ne sont pas très répandues comme à l'Est.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez pour réagir sur la mode du court, mini-jupe ou pas, 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, vous postez aussi sur WhatsApp. Et ce numéro que je viens de vous donner est également notre numéro de téléphone WhatsApp. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, Karima Peroni, Medina Koné, vos réactions, Karima.
C'est dur hein, d'entendre, je ne sais plus quel auditeur qui disait que finalement, il ne fallait pas mettre des mini-jupes, sinon au risque de se faire violer. On est en plein dans le débat. En
oui.
plus,
il vient de nous dire le contraire. Hein, voilà. Que, hélas, l'histoire prouve le contraire.
Alors, on est en plein si dans le débat si et finalement, ça va. Encore une fois, c'est une question de femme. En fait, ça va bien au-delà de l'appartenance, que ça soit à un pays ou bien des goûts vestimentaux. Là, on parle de la femme et de sa liberté primaire, c'est-à-dire être libre de ses choix et que ça y ait aucune ingérence sur le comportement de l'homme.
Medina Koné.
Moi, je suis très touchée par le témoignage de l'auditeur qui dit que qu'il ne s'agit pas de femmes en jupe ou en tenue couverte, parce qu'effectivement, c'est effectivement le statut de la femme qui est attaqué, tout simplement, quoi qu'elle mette. Moi, je suis pour une liberté, mais aussi faut aussi que les femmes fassent attention, effectivement, en fonction des régions où elles sont. Il y a des zones, effectivement, où quand on s'habille en cours, on est plus critiqué. Je ne dis pas que c'est bien. J'explique simplement qu'il faut en avoir conscience et qu'il faut vraiment faire attention à cela.
Le court, c'est un vrai sujet de divergence. C'est pas que sur le continent africain, d'ailleurs, Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Dans presque toutes les sociétés, on invoque des raisons de moralité, des raisons religieuses, mais aussi des raisons d'esthétique. Si on n'a pas des jambes de mannequin, est-ce bien raisonnable? Au contraire, des filles rondes qui s'affichent en court pour faire passer un message bien dans son corps, bien dans sa tête. Acceptez-moi tel que je suis. On voit bien que derrière, il y a un débat qui est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air.
Oui, le débat est beaucoup plus profond parce que d'abord, c'est une image culturelle. Qu'on voit l'Afrique traditionnelle, le court est présent, mais le regard qu'on a sur les êtres humains est différent que le regard très sexué que l'Occident finalement a amené à l'Afrique. C'est-à-dire que même si vous voyez des photos ou même des dessins de reines autrefois dans l'Afrique, elles avaient souvent un petit pagne très très bijouté, très bien coiffé, mais avec le petit pagne, et souvent les seins nus. Et les seins nus n'avaient jamais posé de problème. Et quand effectivement il y a eu la colonisation, où les prêtres sont arrivés en disant « il faut se couvrir » et tout ça, la notion quasiment de péché, de désir à l'état nu, comme ça, comme on l'imagine avec un sous-vêtement, a commencé à poser des problèmes dans les sociétés. Et vous avez des sociétés, par exemple, qui sont assez libérales, je dirais comme la société sénégalaise, où les filles en robe courte sont décriées, mais les filles en robe ultra moulante sont le quotidien. Et voilà.
Ça peut sembler paradoxal.
Ça peut sembler paradoxal. Au Sénégal, vous ne montrez pas vos jambes, mais vous pouvez montrer vos seins. Donc, c'est vraiment. Donc, c'est compliqué.
Partout, on va dire qu'il y a une cohabitation de styles très différents.
Il y a une cohabitation, mais même quand vous allez, par exemple, au marché, vous voyez des femmes avec des camisoles, avec, je ne dis pas tous les seins à l'air, mais très échancrés, ce n'est pas un problème. Mais par contre, on ne va pas voir leurs jambes, on ne va pas voir leurs chevilles. Donc, il y a des paradoxes comme ça. Qui font que, en fait, on ne peut pas parler d'une unité de comportement. Là, je reviens d'une soirée à Brazzaville où il y avait des femmes de morphologie complètement différente. Il y avait très peu de cours, mais il y avait des vêtements qui étaient vraiment, comme on dit, c'était un stretch tellement serré qu'on voyait tout, en fait, quelle que soit en fait, la forme, c'était ça. Donc, il faut voir aussi que souvent le corps est beaucoup plus associé à la sexualité, parce que malheureusement...
Contrairement à l'ultra-moulant.
Oui, bien sûr. Vous voyez par exemple des filles avec des leggings ultra-moulants, très fortes et tout ça, même sur les réseaux sociaux, les filles avec des très grosses fesses, avec des leggings très très serré. Ça, il y a un côté attractif, amusant. Mais le cours est souvent lié à la prostitution.
C'est ça.
En Afrique,
mais voilà. Du coup, est-ce que le cours, qui en même temps domine une partie de la mode occidentale, est-ce que c'est une vraie question dans les studios de création sur le continent africain, par
exemple ? C'est là où il y a un démarquage, parce que moi, je fais énormément de défilés de mode. Et souvent, il y a des créateurs qui prennent des mannequins filiformes et qui mettent des tenues très, très, très courtes. Et le problème, c'est qu'ils s'adressent à une clientèle qui, dans son imaginaire, ne va pas se projeter dans ce modèle. Ça veut dire qu'elles vont se dire, mais comment ça va être avec une jupe longue? Parce que moi, je ne peux pas sortir comme ça. Et souvent, ce sont des femmes qui ont un pouvoir d'achat plus important, donc qui peuvent s'acheter ces vêtements, d'accord, mais qui ne se voient pas dans ce vêtement parce qu'il est trop court, il est taillé de telle façon. En fait, c'est très occidentalisé, c'est très, comment dire, le vêtement n'est pas vu dans un contexte culturel particulier. Et les vêtements sont très courts parfois, donc c'est très joli à voir. Mais les femmes ne peuvent pas se projeter dans ce type de vêtements.
Nous repartons au standard pour discuter de cette mode courte. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi notre numéro de téléphone. WhatsApp, Pascaline est en ligne avec nous de Madagascar. Bonjour Pascaline.
Bonjour Emmanuel et les voisins.
Eh bien, on est ravis de vous accueillir, Pascaline. On vous écoute, je crois que vous êtes enseignante dans une école à Madagascar.
Oh oui. Et concernant notre sujet, l'habiller, c'est un langage. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Personnellement, je trouve scandaleux, voire vulgaire, le port de la mini-jupe et du short. Car elle montre des parties intimes de la femme, les cuisses, qu'il n'est pas bien de montrer à tout le monde.
Et vous-même, en tant qu'enseignante, alors, comment vous sentez-vous habillée décemment quand vous travaillez?
Moi, je suis enseignante et quand je vais au travail, je ne porte pas de tenue courte.
Bon, ceci dit, c'est pas non plus étonnant. Hein. Je sais que Marie-Jeanne Sermatoma, vous dites souvent, il y a un moment pour tout dans la journée. Bien il sûr. Y a un moment pour chaque tenue, finalement. Hein. Une enseignante, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit, qui fait cours devant un public dans sa classe, va a priori pas venir enseigner en mini-jupe. Hein.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, il y a un petit débat qui s'est passé au moment de l'élection du président Macron. La longueur des jupes de Madame Macron a posé débat, puisque c'est une femme de plus de 64 ans, je crois, et qui porte elle a des jambes superbes, mais elle porte des jupes très courtes pour son âge, selon la tradition française, selon le goût français, selon l'élégance à la française.
Débat notamment lorsqu'elle a pénétré dans la cour de l'Élysée,
voilà,
le jour de l'investiture.
Voilà, avec sa petite veste, sa petite tenue bleue. Donc, aujourd'hui, on se dit bon, c'est une forme de liberté, mais ça pose problème, si vous voulez, aux gens de la mode, comme les grandes marques, qui finalement trouve que ce n'est pas très très, comment dire, il y a un côté liberté, je fais ce que je veux, et en même temps cette liberté n'est pas associée à une esthétique qui serait parfaite. Donc il y a ça aussi qui joue, et c'est un petit peu compliqué.
Medina Koné.
Oui, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce sujet sur la mode du cours. La première, c'est que déjà c'est culturel, hein, cette question de tissu. En France, c'est en 1947 que Christian Dior a lancé certains modèles avec des jupes qui allaient au-dessus du genou. C'était révolutionnaire, c'était l'après-guerre. Ensuite, les femmes sont allées de plus en plus courtes, pour ne pas dire de plus en plus loin. Donc c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui est contemporain ici en Occident. Et sur le continent africain, il y a un côté culturel, c'est surtout le côté peau, l'exposition de la peau. Quelle est la partie qui est exposée? Tout à l'heure, Marie-Jeanne le disait à juste titre, la poitrine peut être exposée, c'est culturel, ça ne gêne pas, on l'associe à la maternité, tandis que les jambes, on l'associe à la sexualité, y compris de mémoire dans les pays d'Orient et en Asie. Quoiqu'en Asie, elles se sont affranchies de toutes les limites qu'elles avaient en assumant désormais leurs jambes, par contre en ayant une attitude très réservé.
Il y a toute une culture de la femme manga, Lolita, vêtue très court, avec des jupes très enfantines, par exemple au Japon, qui ne choque guère.
Tout à fait, sauf que la femme asiatique est un peu réservée dans l'attitude, c'est-à-dire qu'il y a la tenue, mais il y a aussi l'attitude qui va avec.
La silhouette. Donc, aussi.
Et la silhouette, exactement.
La façon de se comporter, d'avoir
oui,
tel ou tel geste.
Les silhouettes sont plus... Sont peut-être moins féminines,
moins sexualisées.
Moi, je crois que c'est plutôt l'attitude, en fait, parce qu'elles sont très réservées. Quand elles se mettent en manga, il y a un côté aussi dérision. On joue un rôle. Donc voilà, quand une jeune fille bien faite, c'est-à-dire avec des proportions intéressantes, se met en short, elle a entre 12 et 20 ans, ça ne choque pas. Quand c'est une femme qui a plus d'un certain âge et que ça se voit, et qu'elle joue à la jeunette, finalement, en fait, c'est là
puis
où
est-ce
parfois...
qu'elle porte des talons ou pas.
Voilà, donc,
il y a aussi les accessoires qui jouent beaucoup. Effectivement, pour rebondir sur l'Orient, alors dans les pays musulmans et dans les pays arabes en général, effectivement, la mini-jupe n'est pas du tout à la mode, ne l'a presque jamais été, sauf parce qu'il y a aussi un rapport historique, en fait. C'est-à-dire que la mini-jupe, ou en tout cas la jupe, tout court, on la voyait beaucoup dans les pays comme en Égypte ou dans tout le Maghreb au moment de la colonisation. Donc en fait, c'était aussi s'affranchir des codes occidentaux que de la retirer des vestiaires des femmes arabes ou musulmanes. Alors effectivement, comme dans tous les pays en Afrique, il y a quand même des codes du sexy. Le sexy ne veut pas forcément dire mettre une mini-jupe, c'est-à-dire qu'il y a des robes très moulantes, des décolletés, des bustiers qui sont là en revanche à la mode. Les femmes qui portent le voile et qui s'habillent aussi très moulant avec des jeans taille basse et des jeans serrés, voilà, elles portent pas forcément une mini-jupe, mais elles portent des choses qui peuvent être sexy. En revanche, ce qui est marrant, c'est que dans la création qui est liée en fait à la haute couture ou à la tout ce qui est lié aussi au mariage, il y a cette mode en fait qui oscille entre le traditionnel et l'occidental, et quand on emprunte aux codes occidentaux, on va raccourcir la jupe. Donc par exemple, les caftans qui vont être revisités, on a très souvent vu lors des festivals autour du caftan, des caftans qui ont été raccourcis alors que la tradition veut que ça soit plus long. Et c'est comme donner en fait cette mention occidentale à des tenues qui sont traditionnelles. Donc ça veut dire que dans les pays arabes, la mini-jupe ou le raccourcissement des longueurs, c'est vraiment un tampon d'un code occidental.
Oui, quand je vous parlais de géopolitique du cours, hein, je n'étais pas très très loin. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de WhatsApp. On donne la parole à Stéphane qui nous appelle de Laval au Québec. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Vous êtes bien matinal.
Oui, c'est vrai.
Merci d'être avec nous. Alors, que vous évoque le sujet? Vous semblez dire que vous parlez d'un discours liberticide sur le sujet.
Oui, c'est vrai que le discours est quand même assez suranné, je trouve, parce que ça nous détourne des vrais enjeux, des vraies problématiques, qui sont les problèmes de gestion, les problèmes politiques, les problèmes d'hygiène. En Afrique, on a beaucoup d'autres problèmes, et le corps de la femme devrait être...
On peut dire ça aussi du Canada, qui est aujourd'hui en deuil, hein, d'ailleurs. Tout le monde l'a entendu dans l'actualité. Hein.
Oui, c'est vrai.
Donc, ce n'est pas seulement le continent africain, d'ailleurs, qui est touché par des drames. Mais du coup, sur ce discours que vous jugez liberticide, en tout cas sur le fil des réseaux sociaux que vous suivez avec nous par rapport à l'émission, c'est-à-dire que vous dites quoi ? Vous dites qu'il faut passer à autre chose, il faut sortir de ce débat frontal. Mais où est-ce que vous établissez la frontière ? Est-ce qu'il y a une frontière, d'ailleurs, du politiquement correct du cours ou pas ?
Ben, je pense que le choix devrait être laissé aux femmes de décider des vêtements qu'elles veulent porter. Et si elles veulent s'habiller court, elles devraient avoir le droit de le faire. Parce que on vit dans ce siècle-là, c'est un siècle qui devrait être le siècle de la liberté, en fait.
Medina, je vais un peu vous taquiner, cher auditeur. La première chose, c'est que je me suis déjà retrouvée en Italie avec une jupe courte, hein, juste au-dessus des genoux. Et j'étais dans un quartier dans lequel je ne me sentais pas du tout à l'aise. On me sifflait, etc. Enfin, c'était très désagréable. Et c'était pas forcément sur le continent africain. Et c'était dans un quartier plutôt classique. Ça, c'est la première chose à souligner.
Vous je pense dire que c'était pas dans un quartier multiculturel.
C'est pas un quartier multiculturel, oui, tout simplement. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a quand même, moi, je trouve, dans la liberté, il y a des moments aussi où il y a la provocation, parce que la liberté de provoquer, je la comprends. On a toutes à un moment envie de se pomponner. On a toutes nos codes qui nous permettent de nous exprimer. Mais arrive un moment où je me trouve à l'arrêt de bus et où je vois une jupe qui s'arrête juste. Enfin, on voit tout. On voit le string. Ce n'est plus une jupe à ce moment-là. Et je vois ça à l'arrêt de bus et je me dis, je ne suis pas en discothèque, je suis en journée, je vois ça. Et la jeune fille a aussi un soutien-gorge. Là, je m'insurge un petit peu, je me dis,
c'est quand
même un peu... Il y a un
problème d'éducation, vous pensez, aujourd'hui ?
Moi, je pense très clairement.
Par rapport à ces moments de la journée, il ne s'agit pas d'être liberticide, mais par rapport à cet esprit de, il y a un moment pour chaque vêtement dans la journée.
Oui,
bien sûr. Il ne faudrait pas le codifier.
Il faut
arrêter d'être hypocrite, en fait. Chaque pays a sa culture. On n'a pas à faire de l'ingérence pour une question...
Mais le débat se pose en Italie comme partout en Europe, à l'arrêt du bus.
Pourquoi est-ce que finalement les critères occidentaux seraient les seuls critères à imposer, par exemple, dans les pays du Golfe ? Quand on a parlé, par exemple, des femmes voilées, c'est exactement la même chose. Le voile a posé problème en France parce que c'était associé à telle chose. Si demain, un pays africain décide d'interdire la mini-jupe, je pense qu'il y aura un tollé qui sera peut-être de même acabit, parce que les gens aussi ont besoin de repères et qui ne sont pas forcément les repères qui sont ici. Donc, liberticide peut-être pour le Canada, mais peut-être que pour le Sénégal ou pour le Niger, c'est une forme de domination culturelle qui ne correspond pas à la société. Et souvent, ce sont les femmes qui sont contre la mini-jupe.
Vos filles, vous leur dites quoi, mesdames?
Les féministes, si jamais il y a un pays qui interdit la mini-jupe, les féministes montraient tous au créneau en disant mais on n'a pas le droit, c'est de la liberté de la femme, etc. Alors que c'est les mêmes féministes qui étaient d'accord pour que dans certains endroits, la femme ne porte pas le voile. Donc moi, je pense que la liberté, elle doit concerner aussi bien la femme qui met un micro-short à un arrêt de bus, comme la femme qui va porter... qui va porter un djellab. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je suis autant ouverte sur ces deux extrêmes, en fait.
Je comprends. Moi, en tout cas, j'ai eu un petit décollement de rétine en voyant ce short.
Il y a aussi des codes. C'est vrai qu'on a des codes aussi de mode. C'est vrai qu'après, il y a aussi ce qui est harmonieux, joli et qui ne l'est pas. Dans les pays anglo-saxons, tout à l'heure, on avait un auditeur de Montréal, de Laval. Mais
Stéphane est toujours en ligne avec nous. Vous êtes toujours en ligne, Stéphane.
Vous êtes toujours là.
Vous savez, elles sont bavardes.
Ce qui serait intéressant,
la parole, Stéphane. Attendez.
Mais justement, j'aimerais lui poser une question. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez si la mode chez vous du cours, est-ce qu'elle est légion ? Est-ce que c'est plutôt la journée, le soir ?
Bon, déjà quand il fait moins 30 en plein hiver, ça se calme.
C'est vrai.
Ou pas, Stéphane ?
Les ports sont limités.
Ou il y a une seconde peau, il y a un second vêtement en dessous quand il fait très froid chez vous, Stéphane ?
Oui, exactement. C'est vrai que en ce moment. Les températures commencent à remonter un peu plus, donc c'est sûr que les gens vont se, Les filles vont s'habiller beaucoup plus légèrement, et ça n'a pas l'air de déranger grand monde ici. C'est complètement accepté que les femmes aient la possibilité de s'habiller comme elles,
oui, elles le souhaitent. Néanmoins, pour faire écho à notre voisine qui nous appelait d'Antananarivo à Madagascar, une enseignante ne vient pas faire cours à l'université en mini-jupe.
C'est clair que...
Donc il y a bien un code tellement intériorisé qu'on n'en parle pas, mais il y a bien un code.
Il y
a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui ont des codes vestimentaires, c'est-à-dire ces talons hauts, jupe à 30 cm. Et il y a des femmes, il y a quelques années, qui ont été licenciées, même à des postes assez importants, parce qu'on avait considéré que leur jupe était trop courte et qu'elle dérangeait.
Mais on devrait s'en franchir, c'est pas...
Non, mais en fait, ce sont des codes des sociétés aussi.
Est-ce qu'on doit les accepter, ces codes ?
Bah, à partir du moment où tu signes ton contrat de travail et que c'est marqué, écoute, c'est à toi d'accepter ou pas.
C'est-à-dire, vous, dans l'idée, est-ce que c'est
non,
bien
moi,
de
moi, moi, je ne me place pas dans un... Moi, je pense que la liberté de la femme est autre. Un combat, pour moi, c'est pas au niveau de la longueur d'une jupe, c'est au niveau d'un engagement, c'est au niveau de tellement d'autres choses. Et tellement... Tous les combats que mènent les femmes africaines ne sont pas au niveau de la longueur d'une jupe, c'est au niveau de l'amélioration des conditions de santé des enfants, c'est au niveau de l'éducation,
le combat
tellement de
contre
choses,
les violences faites aux femmes n'est en rien lié
à la longueur de la jupe,
au choix vestimentaire. Notre auditeur à Béni, à l'est de la République démocratique du Congo, nous l'a bien expliqué.
Bien sûr.
Et bien évidemment, c'est bien plus grave que cela.
Oui, j'ai une chose à dire. Ça arrange les fabricants de tissus, parce que du coup,
c'est
génial pour eux.
Non, c'est une rentabilité qui est beaucoup plus importante.
Il y a une logique. Est-ce qu'il y a une vraie logique économique de faire du cours ? Est-ce qu'on économise du tissu ? Est-ce que ça rallonge les marges du business ? Est-ce que c'est une part du...
Alors, c'est une part du business, mais c'est aussi... ce sont des techniques qui sont différentes, qui sont parfois plus difficiles. Parce que faire... parce que vous savez, faire par exemple, un petit short pour un bébé de un mois est plus difficile que de faire pour une femme qui fait du 42. Parce que, d'abord, les patrons sont plus petits, il faut penser au confort, il faut penser à la sécurité, il faut penser à la couche qu'on va mettre. Là, pour les jeunes femmes, c'est différent. Mais il y a des techniques qui sont parfois plus difficiles à faire pour un short en 36-38 que pour des grandes tailles.
Alors moi, je partage pas tout à fait, parce que j'ai des amies qui sont créatrices et qui m'expliquaient qu'effectivement elles économisaient avec la même quantité de tissu, elles raccourcissent, elles ont moins de temps de travail sur la matière et elles économisent au niveau du tissu, donc elles ont plus de rentabilité à produire des tissus courts. Je vais même dire une chose, c'est qu'en fait les femmes fortes aujourd'hui assument leur rondeur de plus en plus et la mode du court leur est accessible. Alors je pense que le sujet aujourd'hui, c'est qu'en réalité avant, une femme avec une silhouette assez fine pouvait porter une mini-jupe. On contestait légèrement, mais bon, ça passait. Mais les formes sont d'une telle évidence que les exhiber encore plus, c'est ce qui pose question aujourd'hui.
En tout cas, merci à tous nos auditeurs qui ont participé à la discussion. Stéphane, Pascaline et tous les autres qui ont posté sur WhatsApp. Vous savez que tous les jours, maintenant, vous pouvez poster vos messages vocaux sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Allez, on change de sujet. On a fait le tour de la jupe et de la robe. On passe à Black Panther. Comment le film qui explose le box-office influence aussi la mode ?
Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda ? Des explorateurs l'ont recherché enfin. Je suis le seul à l'avoir vu. Et à en être ressorti vivant.
Of the business today. Fuck shit is finished today. RT and J, need a new PB&J. We dropped the classic today. We did a tablet of acid today. Lit joints with the matches and ashes away. We dash away. Donna and Dixon, the pistol is blasting away.
Doctors of death, filling our patients of breath. We are the pain you can trust. talking at work, hooking up curses and slurs, smoking my brain in a mush. I became famous for blaming you fucks, maiming my way through the brush. There was no training or taming of me and my bruh. Live like a man, but I'm animal raw.
We are the murderers there, there with the jail and we murdered the murderers there. Then with the hell and discovered the devil delivered some hurt and despair. Used to have powder to push, now I smoke pounds of the push. Holy, I'm burning the bush. Now I give a fuck about none of this shit. Two runner over and out of this bitch.
Black Panther, le phénomène du super-héros, T'Challa, souverain du Wakanda, un royaume imaginaire, le film américain qui est en train de battre des records d'affluence. Faut dire qu'il y a une série de têtes d'affiches, y compris d'ailleurs pour la musique. Là, on entendait un extrait de Run the Jewels. On a Forest Whitaker, on a Lupita Nyong'o que vous adorez, Marie-Jeanne, Isaac de Bancolé aussi.
Angela Bassett.
Voilà. C'est un film où les effets spéciaux, les décors, les costumes sont extrêmement graphiques, pas mal empruntés d'ailleurs à l'univers des jeux vidéo. Comment est-ce qu'on peut qualifier les vêtements du film et puis comment ça peut influencer la mode aujourd'hui, la mode, je parle de la mode de la rue d'ailleurs, la mode des réseaux sociaux.
Alors, Marie-Jeanne. Moi je pense que ce qui est intéressant dans ce film, c'est une extrême modernité et le fait aussi qu'ils ont complètement puisé dans des traditions africaines. Par exemple, les coiffures de Lupita, c'est une coiffure vraiment très très ancienne qui consiste à enrouler les cheveux avec un petit peu de matière comme de la boue. On trouve beaucoup au Kenya, mais également en Afrique.
Hein,
oui, oui, tout
ça
à
monte
fait. Non, ce sont des petits ronds, des tout petits ronds.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant.
Il y a aussi des coiffures, des espèces de coiffes qui se superposent,
tout à fait.
Chignon en hauteur.
Qui sont plus proches des coiffures sud-africaines. Il y a vraiment un mélange, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est donc une très grande modernité avec les effets spéciaux, et puis avoir puisé, finalement, dans les traditions africaines du tissage, puisqu'il y a des tissages qui ressemblent un petit peu au kente, il y a des tissages qui ressemblent un petit peu au velours du Kasaï, et qui sont extraordinaires. Et je pense que là, il y a véritablement une mode qui va retourner vers l'Afrique. On a vu ça déjà chez Imana ici, avec ses kente qu'il fait en manteau. Et là, véritablement, je pense qu'il y aura quelque chose qui va en sortir. Les coiffures d'Angela Bassett aussi, c'est-à-dire cette acceptation des cheveux gris avec des locks très longues, avec des grandes nattes et tout ça, c'est très très joli. Le fait de porter aussi des foulards, ces grands foulards comme portent les femmes qui font le candomblé au Brésil et qu'on trouve aussi chez les prêtresses vaudou. Donc il y a des emprunts comme ça.
Ça a été très travaillé en tout cas.
Il y a un travail historique, un travail stylistique qui puise vraiment dans toute l'Afrique et c'est extraordinaire.
Medina Koné.
J'ai une référence. Je vais parler par exemple de... Là, c'est un peu historique au niveau du cinéma et puis de la répercussion mondiale. Là, au niveau historique, il y avait un prince à New York en 1988 avec Eddie Murphy qui avait beaucoup emprunté à la culture africaine. Il s'était inspiré du kente, etc. Et ça avait beaucoup plu au cinéma des Américains, des Afro-Américains et puis un petit peu les Afro-Francophones des années 90 qui ont connu ce film. Et ensuite, il y a eu Michael Jackson avec Remember the Time qui a plongé dans l'égyptologie. Donc on est passé aussi à un cran supérieur où là, il y a une petite répercussion et ce côté attractif de la culture africaine. Et là, c'est le grand waouh. Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'il y a eu ces phénomènes-là, on a vu dans la mode des répercussions, dans les magasins, la culture hip-hop, je tiens à le préciser, est un formidable lieu d'expression pour les afro-modernes, hein, je vais les appeler comme ça.
Vous avez un petit côté Black Panther d'ailleurs aujourd'hui.
C'est vrai.
Medina. Pas qu'aujourd'hui. Ouais, ouais. Petit côté vaisseau spatial.
Surtout les boucles d'oreilles. Avec les grosses boucles d'oreilles. Puis la tenue noire de panthère, effectivement. Et du coup, ben voilà, je pense que j'ai dû subir cette influence-là. Et partout où vous êtes sur la toile ou dans la rue, vous voyez des gens faire des signes de Black Panther et c'est un vrai phénomène, y compris pour les non-africains ou non-afro-descendants.
Alors, qu'est-ce qu'on va emprunter là désormais comme accessoire, comme couleur, comme forme, comme petit signe distinctif au film sur son propre look, à votre avis? Qu'est-ce qui commence déjà?
Alors, je pense que, par exemple, au niveau du maquillage, le maquillage est très recherché et en même temps très nude. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de couleur.
C'est pas le genre de truc qu'on se fait le matin avant d'aller travailler quand même.
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait on sort de l'époque Kardashian pour arriver avec quelque chose de beaucoup plus naturel mais de travailler. C'est-à-dire que quand on voit le teint de Lupita, ça s'attrape pas comme ça, quoi.
Tout le monde avait la beauté de l'hôpital.
Non, mais il y a des filles qui sont 100 fois plus belles. Il y a des filles qui sont 100 fois plus belles, qui sont aussi à tomber par terre et qui peut-être vont retourner vers cette recherche de naturel, mais d'un naturel très travaillé.
Bon, d'accord, le teint.
Et donc okay. Le teint, et puis je pense aussi retrouver les tissages d'hier pour les mettre au goût d'aujourd'hui. C'est-à-dire cette motte locavore dont je suis un petit peu la partisane. Et trouver vraiment, faire une recherche sur les textiles. Par exemple, ça peut être un blouson en jean qu'on va retravailler en mettant des motifs plus sombres, des motifs de velours du Kasaï. Vraiment, en fait, ça, s'emparer de cette identité nouvelle, comme tu dis, afro-moderne, et pour donner, continuer aussi à compter aussi dans le mode de la mode.
Puis bon, on ne peut pas parler de ce film sans parler aussi du message politique hein, qu'il y a derrière. Effectivement, il y a des références autour de la mode, mais c'est quand même une révolution dans le cinéma que de proposer un Marvel avec un casting 100%, il me semble.
Non, il y a un blanc.
Ah d'accord, pardon.
À 15%
afro-américain.
Et avec des images de femmes de beauté noire extrêmement fortes.
Oui, hein. Bien sûr. Oui. Ah, oui.
Alors, arrêtez les crèmes éclaircissantes.
C'est cette mode-là, en fait.
Arrêtez les crèmes éclaircissantes. La peau foncée est télégénique. Ouais. Elle est belle dans la
vous
rue.
Vous pensez que ça va avoir un effet sur les crèmes éclaircissantes, justement?
Pas au bout d'un film, mais je pense que plus il y aura de films qui vont présenter cette beauté-là, plus je pense les mœurs pourront évoluer.
Non, ça dépend comment on juge ça, mais je ne pense pas. Parce que pour en venir au sujet sur la beauté noire que j'ai fait, les crèmes éclaircissantes sont même sur les sites de vente éthiques ou même bio, sont les premiers... achats des femmes noires.
Et en pharmacie, on les trouve aussi sur les devantures. Oui,
avec un marketing savant, juste pour éclaircir quelques tâches. En réalité, ce sont effectivement des cosmétiques toxiques.
Il y a la médecine aussi qui s'y met, avec des piqûres, des comprimés. Donc,
mais sur les cheveux, le mouvement nappy, c'est-à-dire natural and happy, c'est-à-dire du cheveu crépu, du cheveu tressé, mais plus de cheveux lissés. Il n'y a pas de cheveux lissés dans Black Panther, si je ne me trompe pas.
Il y a du chauve.
Des locks. Oui, voilà. Mais ce sont des cheveux naturels. En tout cas,
tout à fait.
Le mouvement était déjà amorcé, donc Black Panther n'a pas pris un risque fou non plus en faisant porter uniquement des cheveux naturels à ses comédiennes.
Alors moi, j'ai eu une expérience intéressante. J'étais en Guadeloupe il y a une semaine pour un salon de la femme et il y avait à peu près 3000 femmes qui sont passées et je les ai vues et c'était très très intéressant. Et il y a de plus en plus de femmes qui osent se raser la tête. Soit elles sont complètement rasées, soit elles
Karima
ont une
vous regarde
courte...
d'un air affolé.
Non, mais c'est magnifique parce que c'est extraordinairement beau. Donc, et il y en avait d'autres, donc il y avait les cheveux hyper courts, vraiment à la garçon, c'est-à-dire avec un micron sur la tête, teintant blonde. Avec beaucoup d'accessoires. En fait, il y avait.
Le tempérament aussi avec.
Et c'était des femmes, parfois, ce sont des femmes assez âgées. J'ai vu des femmes de 70 ans comme ça. Et sont d'une beauté, c'était extraordinaire. Pour revenir au mouvement nappy, là, je reviens du Congo. Ben, je peux vous dire que dans des endroits où je suis allée, il y avait peut-être une nappy sur 500
perruques. Oui, c'est clair. Le lissage est encore. Les perruques encore de beaux jours devant elles.
Donc, ce n'est pas forcément.
Chez les Maghrébines, non, on n'est pas du tout. Sur le nappy, on n'assume toujours pas nos cheveux. On est encore sur les tendances du lissage ou du
brushing.
Le brushing et du brushing naturel. Des frisages, on commence de plus en plus à s'en affranchir, mais en tout cas des lissages naturels. Donc on revient aux techniques d'avant qui consistaient en fait à enrubanner les cheveux avec un tissu très fort. Et ça s'appelle le cardoon. Et ça, ça c'était vraiment les grands-mères d'il y a. Mon arrière-grand-mère faisait ça. Et aujourd'hui,
c'est un lissage sans produits chimiques.
Exactement. C'est revenu à la mode en fait de faire ça.
On enroule chaque mèche.
On enrubane ses cheveux. Donc, toute sa chevelure, soit en deux ou trois fois. Et on dort avec. Et en fait, c'est vraiment. Un lissage très 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 serré avec un long 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 tissu et ensuite le matin le cheveu
sur
est détendu.
Cheveux secs ou cheveux
humides? Secs ou muets ou mouillés pardon. Oui. Et le matin le cheveu n'est pas raide mais en tout cas il est fortement détendu, on perd jusqu'à 60% de sa frisure et aujourd'hui ça c'est devenu à la mode aussi chez les occidentaux qui découvrent cette technique là.
Ouais, c'est le lissage défauché.
Bah, et des naturels, des bobos et il y a même des sites internet qui proposent de plus en plus ce tissu qui est vraiment très particulier et il y a plein de commerces aujourd'hui autour de ça.
Comment se porte aujourd'hui ce marché alors on peut parler de la beauté noire, mais il n'y a pas que, hein, mais qu'on a longtemps, tous ces marchés qu'on a longtemps qualifiés de niche dans un monde esthétique largement dominé par la beauté caucasienne. Quand on dit beauté caucasienne, il faut être très clair, yeux bleus, nez droit, cheveux lisses et blonds, y compris pour l'Asie d'ailleurs. Hein. C'est encore le modèle dominant. Alors, où est-ce qu'on en est de ces autres modèles? Je ne sais pas s'il faut dire communautaire, si ça a d'ailleurs un sens, à mon avis aucun, mais, et comment vous préférez les appeler, mais par exemple sur la beauté noire, où est-ce qu'on en est?
Alors sur la beauté noire, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une très grande évolution, très rapide, et en même temps, c'est une évolution qui ne génère pas finalement les profits auxquels on devrait s'attendre. Je m'explique. D'un côté, vous avez des grandes marques qui commencent à regarder avec bienveillance donc, les femmes noires, mais qui n'arrivent pas encore à répondre à leurs besoins, à leurs demandes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre un petit peu de colorant noir ou marron foncé dans un fond de teint pour qu'il soit adapté à une peau noire. La composition même d'un fond de teint peut faire qu'il apparaît gris sur une peau noire. Donc là, il y a quand même un problème qui se pose parce que cette technologie...
Un savoir-faire technique.
Il y a un savoir-faire technique qui fait que souvent les grandes marques, on ne va pas les citer, proposent des produits qui ne marchent pas. Et parce qu'elles ne savent pas les faire.
Donc vous dites, on est encore loin du compte.
On est encore loin du compte. Et puis vous avez aussi des petites marques afro qui sont là en train de grappiller le marché, mais surtout dans le domaine du capillaire. Parce que dans l'interview que j'ai faite de Thierry Pchanga, qui est un Camerounais et qui a lancé le site Paraethnique, qui est un pharmacien, il faut voir que les premiers achats sont d'abord du capillaire, des produits naturels capillaires. Les premiers achats d'abord, en fait, dans un panier de la ménagère, si vous voulez, afro, ce seront les produits dépigmentants, ensuite les produits capillaires.
Et pour vous, Mélina Koné, vous dites aussi on est loin du compte.
Il y a de l'amélioration. En termes d'offres, il y a de l'amélioration. Avant, j'allais chez Carrefour, chez Auchan, chez peu importe. J'allais chez les commerçants, je ne trouvais rien, mais rien du tout. Aujourd'hui, je vais dans les centres commerciaux en France ou à l'étranger, je trouve quelques produits. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais il y a effectivement des produits capillaires. On trouve de plus en plus de fonds de teint. Les marques essayent de lancer des gammes avec des cosmétiques qui s'adressent à des pigments différents. Et puis, on a aussi maintenant beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Je vais même prendre une personnalité, Absatoussi, par exemple, qui a lancé ses cosmétiques qu'on trouve en pharmacie. Il y a de plus en plus d'offres.
Bon, alors, vous restez avec nous dans quelques instants. On ne change pas de sujet. On reste bien sûr dans le monde de la mode et de la beauté. Nous partons pour l'Iran et nous allons parler de la chirurgie esthétique.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Eh bien, on dit en Iran. En Iran, la chirurgie esthétique est très répandue. On connaissait déjà le phénomène largement au Liban, à Beyrouth, par exemple. En Iran, on pratique beaucoup la rhinoplastie, c'est-à-dire l'opération du nez. Première opération pratiquée dans le pays. Plus de 12 000 chaque année, selon la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique. Notre reporter Charlie Dupio a rencontré à Téhéran trois jeunes iraniennes, la vingtaine, coquettes, Somayeh, Elmira et Fatemeh, dont l'arrondi du nez est un peu suspect.
Quand j'ai eu 18 ans, je suis allée me faire opérer le nez. Mon oncle était médecin, c'est lui qui m'a opéré. D'ailleurs, je l'ai fait refaire deux fois. Je trouvais que la première opération n'avait pas suffi. Mais je n'aime pas les filles qui ont recours à beaucoup de chirurgie sur leur visage. Moi, j'avais un gros nez et je pensais qu'il fallait que je le change. C'est vrai que le premier jour, pendant ma première opération, ça a été très douloureux. Et ma mère est venue me demander « Tu n'as pas l'air d'avoir bien vécu cette opération. Si tu pouvais revenir en arrière, tu te ferais quand même opérer ?» J'ai répondu oui sans hésiter. Car j'avais un gros nez au lycée, j'ai décidé de le rendre plus petit.
Aujourd'hui, on peut dire que cette opération coûte entre 7 et 8 millions de toumans, entre 1200 et 1300 euros.
Somaïe, toi tu es amie avec Fatemé. Quel regard tu portes sur ces opérations du nez en Iran ?
Moi, excuse-moi de te le dire Fatemé, mais je suis vraiment contre. Je crois en la beauté naturelle. Mais peut-être que si j'avais eu un gros nez, j'aurais pensé à le faire opérer pour qu'il soit plus joli. C'est normal d'avoir envie d'être belle. Mais là, en l'état actuel, je suis contre. Tout le monde a envie d'être plus joli. Mon nez était trop gros et maintenant il ressemble à celui de Somaïe.
Et comment tu te sens aujourd'hui avec ton nouveau nez ?
Je l'adore.
Comme vous l'avez sûrement vu, le maquillage et l'utilisation des produits de beauté sont très répandus et populaires en Iran, parmi les jeunes femmes et même parmi les femmes plus âgées. Je suis en contact avec des amies du lycée sur Instagram. Quand je les vois en photo, elles sont parfois tellement maquillées que je ne les reconnais pas. Et puis je m'inquiète pour la santé de leur peau. En revanche, mes amies proches sont plutôt comme moi, c'est-à-dire qu'elles se maquillent peu. Elles prêtent peu d'attention à tout cela. Mais il arrive qu'on se sente mal à l'aise dans le métro, par exemple, lorsque les filles à côté de nous sont maquillées ou qu'elles ont eu recours à de la chirurgie esthétique. Et à propos du nez, le mien a une telle forme qu'au lycée, mon entourage m'a conseillé de me faire opérer. Mais moi, je trouve que je suis très bien avec mon nez. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement d'opérations du nez en Iran que les femmes se ressemblent toutes, comme si elles étaient toutes sorties d'une usine de fabrication de Barbie. Et ce n'est pas agréable à regarder. Il vaut mieux garder les différences et la beauté naturelle de chacune, même si on ne correspond pas aux critères de beauté conventionnels, plutôt que de toutes se ressembler.
Voilà, reportage en Iran de Charlie Dupio à Téhéran. Et il n'y a pas que les filles hein, qui se font refaire le nez, il y a de plus en plus d'hommes, même si c'est vrai que les chiffres sont difficiles à trouver.
J'avais vu un jour un reportage sur Arte sur la chirurgie des personnes qui veulent changer de sexe. Et il se trouve qu'en Iran, il y en a énormément. Et l'Iran est vraiment un pays où il y a les meilleurs chirurgiens esthétiques du monde. C'est ce que j'avais découvert. Et ça, on le sait peu, parce qu'on pense que toutes les influences viennent du
Brésil aussi, beaucoup.
Et vous imaginez que effectivement, ceux qui changent leur nez, donc il y a ces femmes, donc souvent des jeunes femmes hein, qui ont moins de 30 ans, et c'est aussi un gage juste avant de se marier. C'est aussi rentrer dans un code esthétique. Et puis chez les hommes aussi, et très souvent, il y a une très forte population gay en Iran ou transsexuelle, et il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont recours.
On peut imaginer que la population gay, c'est la même à peu près partout dans le monde. Après, reste à savoir comment elle s'exprime et comment elle a le droit de s'exprimer, mais a priori en général. Mais je me posais la question finalement. Est-ce que, je vous la pose à toutes les trois, mais peut-être à vous Karima Peroni, mais est-ce que le fait d'être dans une société où toutes les femmes sont voilées, est-ce qu'on n'accentue pas le regard sur les défauts physiques du visage qui est ce qui apparaît aux autres en premier,
sûr,
finalement.
Bien sûr, c'est vrai qu'on ne peut plus se réfugier derrière sa chevelure. Alors, c'est pour ça que celles qui ne vont pas avoir recours à cet extrême de faire de l'opération sur leur visage vont jouer plutôt avec les nœuds de leur voile ou bien les couleurs. Enfin, en France, derrière le mot voile, on a juste un seul mot, mais il y a plusieurs réalités, en fait. Hein. Et donc, dans les pays où le voile est obligatoire, comme en Iran, bah, les femmes expriment leur sensibilité ou expriment leur vision de la mode à travers la façon dont elles vont porter le voile. Et effectivement,
et
elles vont
aussi
très facilement, c'est ça, et elles vont très facilement. Alors, les sourcils en Iran, comme en Arabie Saoudite, sont très, très, très prononcés. On appelle ça le sourcil Khaliji.
Et on y passe énormément de temps. Hein, sur le sourcils.
Et il y a des modes. Il hein, y a vraiment des modes.
Ça, il faut faire une émission uniquement sur les sourcils.
Y a
un jour, on le fera.
Et le nez, donc l'idée, c'est un sourcil très, très broussailleux, très haut. Un nez un peu petit et mutin et une bouche.
Et ben voilà, tous les canons de la beauté. Merci à vous, mesdames. Marie-Jeanne Serbin-Thomas du magazine Brune. Merci à vous, Karima Peroni du magazine Gazelle. Et merci à vous, Médina Koné, de FDF à retrouver sur Internet,
tout à fait.
Merci à toute l'équipe également. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli Pure Radio, RFI Pure Radio, rubrique magazine, et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des coopérations universitaires entre l'Europe et l'Afrique, notamment avec les programmes Erasmus. À demain.